l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonsoir monsieur, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Bonsoir monsieur, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Bonsoir, excusez-moi les filles, excusez-moi, ça vous embêterait de m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît?
Bonjour à tous. Ce sont des chiffres terribles pour l'Europe dans presque tous les États membres. On verra dans quelques minutes une ou deux exceptions. La précarité fait des ravages et le nombre de sans-abri ou de personnes mal logées explose. 11 millions de ménages sur 220 millions n'ont pas de logement digne. C'est le constat d'une étude faite par la Fondation Abbé Pierre et la Fédération européenne des associations travaillant avec les sans-abri, la FEANSA, basée à Bruxelles. Pointé du doigt notamment l'Allemagne, l'Irlande ou encore le Royaume-Uni. Chez nos voisins d'outre-Manche, 78 SDF sont décédés l'hiver dernier. Le nombre de personnes mal logées ou à la rue a augmenté de 169% en 7 ans et les gouvernements successifs sont accusés par les associations d'aide, au mieux d'indifférence. Marie Billon.
C'est une image qui télescope extrême pauvreté et opulence. Un SDF dort sous un abribus juste devant le château de Windsor. La mairie de cette ville a voulu se débarrasser des sans-abri pour soigner son image. Un représentant des autorités locales a même affirmé que beaucoup étaient des mendiants professionnels qui avaient choisi de vivre ainsi. Ce qui a généré un débat national car les sans-abri sont de plus en plus visibles partout au Royaume-Uni. Depuis 2010, le nombre de personnes sans domicile a augmenté de 169%, selon le bureau du journalisme d'investigation britannique. En 2017, 4751 personnes au moins dormaient dehors. Selon les associations, les causes sont multiples. Les politiques d'austérité développées depuis 2010, la hausse des loyers et le manque de logements sociaux. Les autorités locales ont du mal à trouver des habitations stables pour ceux qui en ont besoin. Selon l'association Crisis, 78 000 familles sont actuellement dans des logements temporaires. Le gouvernement est lui-même montré du doigt. L'association Homeless Link affirme que la réforme des minima sociaux est une des causes de l'augmentation des SDF parmi les 16-24 ans en particulier. Ce nouveau crédit universel est censé simplifier le versement des allocations sociales, mais la transition du précédent système au nouveau se fait de manière chaotique. Des bugs administratifs et informatiques font que certains foyers se retrouvent sans aide financière pendant plusieurs semaines. Le gouvernement refuse pourtant de faire une pause dans la mise en application. Un paradoxe alors que cette même équipe au pouvoir s'est engagée à réduire de moitié le nombre de personnes dormant dehors d'ici 2022 et d'éliminer le problème d'ici 2027.
Le constat est le même en Belgique. À Bruxelles en particulier, le nombre de SDF a augmenté de 96% d'après l'étude des deux organismes. Les migrants, les familles monoparentales et les femmes sont particulièrement touchées, comme Edith, que Laxmilota a rencontré à l'association Douche Flux Reportage.
Ici en bas, si tu veux, il y a des douches en bas.
C'est... Nous sommes près de la gare du Midi à Douche Flux, une association créée en 2011 pour permettre aux sans-abri d'avoir accès à des services de base, prendre une douche chaude, laver ses vêtements, voir une assistante sociale, discuter. Edith, la quarantaine, arrive la mine réjouie. Depuis peu, elle ne fait plus partie des personnes mal logées. Douche Flux l'a aidée à retrouver un logement.
Moi, je viens de trouver un logement sur Molenbeek parce que je voulais habiter Molenbeek. J'ai pu sortir de ma rue. Je suis heureuse maintenant, mais je reviens quand même parce que bon, c'est un groupe et voilà, j'ai dit quand je prendrai ma crémaillère, elle viendrait à la maison. Ici, ben, pour des petits soucis de repassage ou de lessive, ben, je dis pourquoi pas aller à Douche Flux.
À Douche Flux, Edith a retrouvé des interlocuteurs pour tenter de résoudre ses problèmes.
J'étais venue au début pour avoir une consigne pour mettre mes affaires quand j'étais au SAMU social. Je suis venue après pour prendre des douches parce que les douches au SAMU étaient froides, donc c'était mieux d'avoir une douche chaude. Mais je suis venue ici pour demander de l'aide. Et donc des courriers se sont faits avec les assistantes sociales, de l'écoute. C'était très important pour moi. Je venais pour voir, pour faire une lessive.
Le mercredi après-midi est réservé aux femmes. Elles viennent discuter, faire la lessive, prendre une douche. C'est une population en hausse parmi les sans-abri. Laurent Durcel, cofondateur de l'association Douche Flux.
Bruxelles a fait pire que Paris puisque les mal logés, donc les mal logés ça inclut bien sûr les sans-abri au sens strict, mais c'est aussi les gens qui vivent dans des maisons d'accueil ou dans des squats ou chez un copain ou voilà qui dépanne. À Paris ça a doublé en 10 ans et à Bruxelles ça a doublé en 8 ans. Donc une augmentation de 96% entre 2008 et 2016. Donc cette augmentation, elle est très très visible. Elle touche des populations qu'on voyait beaucoup moins avant, à savoir les jeunes et les femmes. En plus de tous les sans-papiers et les SDF, il y a les migrants qui sont arrivés.
Le nombre de personnes mal logées en Europe est en augmentation. C'est un problème que l'Union européenne doit prendre plus au sérieux pour Chloé Serme-Morin, chargée de projet à la FEANSA, la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri. Un seul pays fait figure d'exception, la Finlande, où le nombre de sans-abri a diminué de 10% entre 2013 et 2016. La raison, une politique volontariste. Chloé Serme-Morin.
À la fois, il y a eu un gouvernement qui a pris la question, peu importe les couleurs politiques, qui a pris la question au sérieux, qui a fait des vraies évaluations pour pouvoir prioriser et savoir comment répondre aux besoins. Et ensuite, dans les modalités d'action, l'idée c'était du coup vraiment de remplacer l'hébergement d'urgence par du logement viable. Donc c'est ce qu'on appelle en français le logement d'abord, en anglais le housing first.
Le logement d'abord, c'est aussi ce qui est en train de changer la vie d'Edith, qui pourrait devenir bénévole à Douche Flux.
On m'a même proposé si je voulais travailler pour eux en bénévolat, mais bon, pour le moment je suis un peu dans le sortir de la rue, reprendre une vie normale comme tout le monde, c'est pas très facile. Et puis, bon, emménager, ça c'est très gai, mais voilà. Donc il faut prendre un petit peu de temps, un peu de recul. Et on verra bien, parce que je sais qu'il y a des groupes enfants le week-end aussi, comme je suis péricultrice. Mais j'aime bien, mais c'est à voir, un jour à la fois.
Le reportage de Laxmilota à Bruxelles. Sarah Coupchou fait partie de la Fondation Abbé Pierre qui a publié ce rapport accablant conjointement avec la FEANSA. Elle constate une aggravation de la situation pour les familles et les jeunes depuis la crise de 2008 et elle explique pourquoi.
L'explication, elle vient de l'augmentation des prix du logement. On sait qu'il y a une augmentation partout en Europe. En France, par exemple, on est sur 16% pour la population totale, 21% pour les ménages pauvres, en particulier pour les ménages pauvres. Et cette augmentation des prix se couple avec une augmentation de la pauvreté. Et donc, ça fait un mélange un peu explosif puisqu'on se retrouve avec des ménages pauvres qui sont soumis à des taux d'effort pour payer leur logement vraiment importants.
Est-ce que vous avez pu recenser les catégories sociales les plus touchées ou les catégories d'âge, en quelque sorte, les jeunes par exemple ?
Oui, voilà. Donc il y a des populations qui sont particulièrement touchées. D'abord les ménages pauvres, c'est ce qu'on a dit. Et puis les jeunes et les personnes d'origine étrangère. Donc d'abord les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui sont encore plus touchés que les Européens.
Alors j'imagine assez difficile d'établir des statistiques pour une population qui n'est pas forcément identifiée. Est-ce que vous avez réussi quand même à obtenir des chiffres ?
Alors les chiffres qu'on a sont toujours des chiffres nationaux et avec des modes de calcul qui sont propres à chaque pays, ce qui nous rend difficile la comparaison d'un pays à l'autre.
Est-ce que on peut dire que le mal logement, comme vous dites, la privation sévère de logement, est lié forcément à un fort taux de chômage ? Est-ce que ces deux indicateurs sont corrélés ?
Alors pas forcément, parce que si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, où on a un taux de chômage qui est très bas et historiquement bas, je crois. En revanche, on a aussi un taux de pauvreté extrêmement élevé et historiquement élevé également. Et si vous prenez par exemple les Allemands sur le taux d'effort qu'ils font pour payer leur logement, il est vraiment important. Puisque les ménages pauvres payent 40% de leurs revenus. C'est-à-dire 50% des ménages pauvres ont un coût du logement qui les assomme. Comme quoi l'activité ne suffit pas, l'emploi ne suffit pas, il faut des conditions de vie suffisantes pour pouvoir accéder à un logement abordable.
Alors on a l'impression, quand on écoute les hommes politiques, dans tous les pays d'ailleurs, hein, c'est un petit peu la même chose à l'exception de la Finlande ou encore de la Norvège, je crois que le cas est équivalent, que finalement le mal logement, la pauvreté, c'est une fatalité. Et vous dites, hein, les deux associations disent non, ce n'est pas une fatalité et vous proposez d'ailleurs des solutions.
Oui, effectivement. Donc dans ce rapport, on essaye de faire des propositions. L'idée étant de pas simplement dénoncer une situation, mais aussi de faire des propositions à partir des pratiques existantes en Europe. Donc, d'utiliser cette technique, enfin, cette méthodologie qu'on appelle le logement d'abord. Il y a eu déjà une expérimentation en France et le président Macron a appelé de ses voeux à une généralisation de cette politique. Et donc, on espère que ça apportera ses fruits. Mais ça suppose aussi de faire de la prévention des expulsions, par exemple, de la prévention auprès des jeunes, puisqu'on a vu que c'était l'un des publics les plus touchés, et évidemment, de développer une offre de logement abordable, puisque sans logement abordable, point de logement d'abord.
Est-ce que l'Union européenne, justement, peut jouer un rôle dans ces incitations?
Oui, oui, nous, on attend de l'Union européenne d'avoir une volonté. Alors, bien sûr, ça fait pas partie de ses compétences propres, mais elle peut fixer des objectifs chiffrés. On sait que à la fin de l'année 2017, le socle des droits sociaux a été signé par les États de l'Union européenne, et ce socle peut être l'occasion, puisque l'un des objectifs de ce document, c'est de permettre l'accès au logement de tous. Ça peut être un outil de suivi des politiques étatiques sur ces questions.
Sarah Coupchou, responsable Europe à la Fondation Abbé Pierre. Sur le continent européen, donc, seuls deux pays font figure d'exception, deux pays nordiques, la Norvège, mais aussi, comme on l'a entendu plus tôt, la Finlande. La Finlande, c'est 5,5 millions d'habitants et un peu plus de 415 personnes qui dorment dans la rue ou dans des hébergements d'urgence en 2017. En 10 ans, le pays a réussi à démontrer qu'il n'y a pas de fatalité, avec un principe qui a révolutionné sa politique, le Housing First. Anne-Françoise Hivert, vous êtes notre correspondante en Scandinavie et vous nous en dites plus sur le principe.
Eh bien finalement, c'est très simple. Pour les personnes en difficulté, dans le modèle traditionnel dit de l'escalier, le logement est l'objectif final, la récompense qui exige de franchir d'innombrables marches avant d'y parvenir. Suivre un traitement pour ceux qui souffrent de troubles psychiatriques, subir une cure de désintoxication. Pour les personnes dépendantes, montrer qu'on est capable de garder un logement. Si certains y parviennent, beaucoup échouent avant d'atteindre le but, notamment les personnes seules, sans abri depuis longtemps. En 2008, la Finlande a donc décidé d'inverser le modèle, partant du principe d'abord que le logement est un droit fondamental et qu'ensuite il est la condition pour une réinsertion sociale réussie. La réforme n'aurait pu se faire sans la détermination du ministre de l'Environnement de l'époque, un conservateur en charge de la politique du logement, aujourd'hui maire d'Helsinki, est déjà annoncé comme le prochain président de la République finlandaise. Il mobilise 11 communes et inclut les ONG. Les hébergements d'urgence sont fermés au profit de résidences où les sans-abri se voient proposer un logement avec un contrat de location permanent. Au total, 3500 personnes ont ainsi été logées, certaines dans des appartements isolés, d'autres dans des unités où plus de 300 travailleurs sociaux sont recrutés, chargé d'assister les résidents pour qui il n'est pas toujours facile de se réhabituer à vivre entre quatre murs. Résultat, non seulement plus de 80% ont gardé leur logement, mais plusieurs études ont révélé que le modèle permettait d'économiser au moins 15 000 euros par an et par personne ne dormant pas dans la rue. Désormais, la Finlande investit dans la prévention et s'est fixé un nouvel objectif, réduire le nombre de sans-abri restants de moitié d'ici 2022.
Comme l'évoquait Sarah Coupchou de la Fondation Abbé Pierre, l'une des causes du mal-logement, c'est l'augmentation de la pauvreté. En France, l'opposition à Emmanuel Macron dénonce une politique qu'elle juge trop favorable aux classes privilégiées. De fait, depuis la crise 2008-2009, le développement du travail partiel ou précaire, la montée du chômage des jeunes ou du chômage de longue durée ont eu pour effet d'accroître le nombre de personnes en risque de pauvreté, selon l'indicateur Eurostat. En clair, des personnes disposant, transferts sociaux inclus, d'un revenu inférieur à 60% du salaire médian national. Alors, quelle est en Europe occidentale la position de la France en la matière? Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors, la pauvreté menace-t-elle plus de personnes en France qu'ailleurs?
Le risque de pauvreté au sens d'Eurostat est une notion théorique qui, en constatant un revenu modeste, fait dépendre la pauvreté de l'absence d'aide provenant de l'entourage. À cet égard, la France est plutôt bien placée dans l'Union européenne puisqu'elle occupait en 2016 la 6e position sur 28 avec un taux de risque de pauvreté de 13,6%. Deux pays nordiques et les Pays-Bas font mieux, ainsi que deux pays de l'Est, la Slovaquie et la République tchèque, champions européens avec un taux inférieur à 10%. Les grands voisins de la France sont plus mal placés, avec des taux de 15,9 au Royaume-Uni, de 16,5 en Allemagne, de 20% en Italie et de 22% en Espagne.
Depuis 10 ans, Daniel, est-ce que ce risque de pauvreté progresse ?
Pour l'ensemble de l'Union, le taux est passé de 16,5% en 2005 à 17,3% en 2016. S'il a diminué de plus de 3 points au Royaume-Uni, sa progression reste très limitée en France, puisque l'on ne passe que de 13,2 à 13,6% en 10 ans. Une hausse plus marquée de 2 à 3 points s'observe en Espagne, pays durement frappé par la crise, et en Suède, où sont arrivés de très nombreux réfugiés. Mais c'est en Allemagne que la progression du risque de pauvreté est la plus significative. À 12,5% de la population, le taux de risque de pauvreté y était inférieur à celui de la France en 2006. Et il est désormais de 3 points supérieur, même s'il tend à diminuer un peu depuis 2 ans. Or, on sait que le taux de chômage s'est beaucoup plus réduit en Allemagne qu'en France.
Mais comment peut-on expliquer alors ce paradoxe allemand ?
À côté de l'effet migratoire, beaucoup voient dans ce phénomène une conséquence des réformes libérales menées sous le chancelier Schröder au début des années 2000. Des réformes qui ont durci les conditions de versement des allocations chômage et créé des emplois d'insertion très mal payés, comme les mini-jobs. Cette thèse est spectaculairement étayée par les données concernant le risque de pauvreté chez les chômeurs. De très loin, ce risque est désormais le plus élevé d'Europe en Allemagne, où il touche 71% des sans-emploi. C'est plus que dans plusieurs pays de l'Est, c'est nettement plus qu'en Italie, Espagne ou Grande-Bretagne, où près de la moitié des chômeurs est concernée, et c'est sans commune mesure avec la France, où la pauvreté ne menace que 38% des chômeurs. Même s'il est important, le chômage dans l'Hexagone est bien indemnisé, et la possibilité de cumuler les allocations chômage et certains revenus d'activité a permis de réduire en 10 ans le risque de pauvreté des chômeurs français de 11%. En Allemagne, ce risque s'est accru de 24%. Soulignons cependant qu'en nombre de personnes concernées, France et Allemagne sont très proches vu le taux de chômage réduit outre-Rhin.
Et Daniel, qu'en est-il du risque de pauvreté pour ceux qui travaillent ?
La proportion de ceux que l'on appelle les travailleurs pauvres a augmenté dans toute l'Europe, sauf en Suède. Elle est très forte, 19% dans un pays comme la Roumanie, et assez élevée, de l'ordre de 12-14% dans les pays du Sud. Mais dans ce domaine encore, notons que l'Allemagne compte une proportion non négligeable de travailleurs pauvres, 9,5%. C'est davantage qu'au Royaume-Uni. La France, elle, en compte moins de 8% et les pays du Nord 5 à 6%. Il y a 10 ans, la proportion de travailleurs pauvres était plus élevée en France qu'en Allemagne.
Alors Daniel, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs de pauvreté ?
Il y a notamment les mauvaises conditions de logement, toiture qui fuit, murs humides, chauffage insuffisant. 14% de Français sont concernés, soit moins que la moyenne européenne. Cette fois, les Allemands sont un peu mieux lotis que nous, mais les champions du logement confortable restent les Finlandais et les Suédois. Sans grande surprise, Italiens, Espagnols ou Britanniques sont moins bien logés que les Français, mais c'est également le cas, et c'est bien plus surprenant, des Danois et des Néerlandais. Autre indicateur, l'accès aux sanitaires, douches ou toilettes. Là, tous les pays d'Europe de l'Ouest fournissent cet accès à la quasi-totalité de leur population, tandis que les pays d'Europe orientale sont très défavorisés. En revanche, un indicateur très discriminant est celui des logements surpeuplés, en d'autres termes trop exigus. Français, Allemands, Espagnols, Anglais sont fort peu concernés, mais les Suédois et surtout les Italiens sont respectivement 16 et 28% à l'être.
Finalement, Daniel, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces indicateurs de pauvreté ?
Surtout ce qui touche aux conditions de vie, ainsi que ses traditions culturelles, entre avant tout en ligne de compte. En revanche, pour ce qui est des revenus, les politiques d'accompagnement social et l'aide apportée par la collectivité aux plus démunis paraissent déterminants. À cet égard, le modèle social français paraît toujours efficace pour contrer la pauvreté monétaire.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Merci de votre fidélité. Merci aussi à Steven Hesley pour la réalisation. Vous pouvez évidemment nous suivre sur RFI.fr ou nous retrouver sur notre page Facebook.